Sannio, omenatge a Rosino De Peiro, 17 e 14 di dicembre.
Radio Sudania, Caterina De Peiro.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page où nous nous retrouvons en ce vendredi 13 décembre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Emmanuel Urien. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons parler de son nouveau roman intitulé L'art difficile de rester assise sur une balançoire et c'est aux éditions de Noël. On en parle dans un petit instant car comme à l'accoutumée, la page info. Pour vous dire que demain matin de 10h30 à 12h30 à la médiathèque José Cabanis au troisième étage au petit auditorium aura lieu le dernier atelier de lecture de poésie de l'année 2013, rassurez-vous, animé par Blandine Poney. Je vous rappelle que l'atelier est gratuit mais qu'il est préférable de réserver pour une question de place au 05 62 27 45 69. Et alors, ce soir, une info qui touche directement Emmanuel, puisque mon invitée, puisqu'elle sera présente avec d'autres, c'est au café Un Bout du Monde.
Voilà, c'est au café Un Bout du Monde. À partir de 18h, nous serons 6 auteurs à présenter 4 livres qui sont parus chez Erol.
Dans la collection 50 exercices. Donc, j'ai écrit avec Manu Cause 50 exercices pour mal élever ses enfants. Il y a 50 exercices pour éduquer son homme, terrasser son ennemi, élever son ado d'appartement. Donc, bien sûr, c'est assez humoristique.
Ah, bah oui,
ça.
Oui.
on essaie de s'éloigner de la perfection, du perfectionnisme des ouvrages du même
oui,
genre.
Qui n'existe pas. Enfin, la perfection n'existe pas. Alors, voilà. En plus, franchement. Hein, voilà.
Donc, voilà, on va tous se retrouver auteurs et lecteurs autour d'un verre au café culturel Un Bout du Monde qui est 18 rue des Pénitengrés à Toulouse.
Voilà, ben merci Emmanuel pour
avec
cette
plaisir.
Info. Donc toi, Manu, Manu Kos, Emmanuel Martin.
Frédéric Martin.
Oui, alors moi, je m'en mêle dans les présent. Emmanuel, Manu et Frédéric Martin, si elle nous écoute. Je suis désolée, Fred. Frédéric Martin, et puis tu me disais...
Il y aura aussi... alors après, ce sont souvent des pseudonymes, mais Thierry Marot et Laurent Boyer qui seront là aussi comme auteurs.
Et puis, en fait, et demain soir, également, au même endroit, donc 18 rue des Pénitengris à Toulouse, vers la rue du Thor, au café Un Bout du Monde, il y aura l'OTAN des nouvellistes, à partir de 18h aussi, comme ce soir. Et là, ce seront des auteurs de nouvelles, dont tu seras de la partie aussi, avec Manu Cause également.
Voilà, encore
Frédéric même. Martin.
Aussi.
Mouloud Akouche, Michel Baglin, Jean Thirion.
Oui, voilà, Alain Monnier, Marie-Josée Berthaud, Francis Porneau, Jean-Jacques Marimbert, voilà. J'en oublie quelques-uns.
Tout plein d'auteurs que les auditeurs connaissent, ce sont des auteurs régionaux hein, de notre,
voilà, tout à fait.
De notre région,
pour la plupart.
Voilà, et qui ont écrit des nouvelles, des romans, mais aussi des nouvelles, et c'est pour ça que demain, ça sera honneur aux nouvellistes
voilà,
et à la
à
nouvelle.
Voilà, tout à fait, nous avons été réunis par les éditions de l'Atelier du Guet dans ce recueil, Le Temps des nouvellistes, donc voilà, que nous présenterons sur le même principe, autour d'un verre, avec des lectures par des comédiens également.
D'accord, donc des beaux rendez-vous ce soir et demain soir à ce café qui a un joli nom, hein, Un Bout du Monde.
Très joli nom et très joli lieu.
Et puis oui, voilà, j'ai vu la déco là sur Facebook, ça a l'air très joli l'intérieur.
C'est très, très, très cosy,
sympa.
Très sympathique, très accueillant.
Ouais. Alors voilà, rendez-vous. Donc on termine la petite page info.
Page à page, Claire Ambille.
Et on attaque le roman. Donc ce roman, donc, on rappelle, voilà, Emmanuel, que tu écris des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre aussi, dont une va être jouée, va reprendre la semaine prochaine.
Oui, entre le 18 et le 21 décembre, donc cette pièce qui s'appelle « Dessine-moi une maison » va être reprise au Théâtre de Poche. Donc,
je l'annoncerai vendredi prochain. Pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent y aller. C'est du 18 au...
Au 21.
Ah oui, donc voilà. C'est, donc, c'est bien que tu le dises maintenant, parce que bon, moi, si je l'annonce le 20, il ne restera plus que le 20 et le 21. Et donc, il faut se renseigner auprès du directement au Théâtre de Poche pour réserver.
Au Théâtre de Poche, il y a le site avec toutes les voilà. informations nécessaires, donc, le
Théâtre
téléphone,
de Poche, Dessine-moi une maison, d'Emmanuel Urien, avec donc 5 comédiennes.
5 comédiennes, voilà. C'est voilà. Une comédie sociale.
Alors, tu fais des traductions aussi
Toujours, pour toujours. Faire lire la marmite.
Et musique et chant aussi, quand
oui,
même.
Voilà, dès que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire dès que mes autres activités me le permettent.
Et puis les enfants, hein, voilà, ça prend du temps aussi. Hein. Alors, tu étais venue la dernière fois à Page pour nous présenter ton recueil de nouvelles « Tous nos petits morceaux » aux éditions Gallimard, des nouvelles où les miroirs étaient, jouaient le premier rôle hein, dans ces
oui.
histoires.
Alors, c'était aux éditions d'un noir si bleu, mais c'est pas grave.
Ah, désolée.
Juste pour rendre à César, l'éditeur.
Ah, bah oui, oui, oui. Non, mais Gallimard, ah voilà, j'ai confondu ça avec le roman précédent.
Tout à fait.
Tu devrais voir quelqu'un.
Voilà, exactement.
Voilà, qui était chez Gallimard. Et là, celui dont on va parler aujourd'hui, j'espère que les auditeurs vont se retrouver avec tout ce qu'on dit là. C'est L'art difficile de rester assise sur une balançoire, et c'est aux éditions de Noël. Cette fois-ci, tu as changé d'éditeur pour ce second roman.
Voilà, c'est de Noël cette fois.
Et donc, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman plein d'humour, de réalité aussi, et puis de notre époque, hein, qui est, voilà, on va le voir, une histoire contemporaine hein, de maintenant, et, ou de toujours, si on peut voir ça aussi comme ça. Mais enfin, bon, le temps est de maintenant, parce qu'il y a Mythique, il y a tout ça. Avant, ça n'existait
oui,
pas.
C'est très, très contemporain.
C'est très contemporain. À la très belle écriture, c'est agréable de lire un livre bien écrit, avec une belle écriture, avec des phrases joliment imagées. J'aime beaucoup les images de tes phrases, Emmanuel. Et puis plein d'émotions hein, qui se dégagent de ce roman, avec un titre. Alors c'est vrai, au premier abord, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce titre ? L'art difficile de rester assis sur une balançoire. Et puis en fait, à la lecture, on comprend, et puis il prend tout son sens, surtout quand Pauline, l'héroïne, explique la balançoire, c'est une planche, c'est la balançoire.
Oui, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement le tape-cul.
Voilà, cette planche qui est sur un axe et dont chacun, enfin avec son poids, fait l'équilibre de la balançoire. Et finalement, quand il y en a un qui saute en vol, ben, l'équilibre se rond et patatras, l'autre tombe sur les fesses et sur le sol et c'est très dur.
Voilà, c'est tout à fait ça, c'est une sorte de métaphore du couple.
C'est, voilà, tout à fait. Voilà, il faut maintenir l'équilibre de la balançoire,
oui.
Si on peut. Et alors donc, et pareil, il a une très belle couverture à noter, donc c'est un beau chat blanc avec des longs poils style Angora, enfin, je pense. Et donc là aussi, ce chat prend tout son sens à la lecture quand on apprend ce qu'est la physique quantique et qui est le savant Schrödinger, je ne sais pas si on dit comme ça.
Si, c'est ça.
Voilà, avec sa boîte et son cobaye, enfin voilà, on apprend plein de choses en plus dans ce livre. Et donc une très belle couverture. Alors l'histoire se passe dans notre ville rose, à Toulouse. Donc c'est agréable en plus de reconnaître des lieux ben, qu'on connaît, pour ne citer que par exemple Saint-Cernin, que tout le monde connaît. Et puis le café Le Cardinal, Place Wilson.
Eh oui, le célèbre café.
Voilà, ben, moi je l'aime bien ce café avec les fauteuils où sont inscrits les noms de célèbres comédiens. Voilà, donc petit clin d'œil à ce café. Alors, ça se passe à Toulouse. C'est une histoire, comme je le disais, écrite par une femme, toi, Emmanuel. Un roman, une histoire écrite à la première personne. Donc, c'est Pauline qui parle, l'héroïne. C'est une femme moderne, trentenaire, qui a une vie de femme avec un mari, des enfants, des amis, et qui va en fait subir un profond bouleversement dans sa vie bien rangée. Un tsunami émotionnel qui va l'anéantir et qu'elle va devoir combattre à sa manière en se découvrant un peu elle-même en fait en quelque sorte au fil des pages.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça, cette femme à la vie presque idéale va découvrir que, que son mari la trompe avec sa meilleure amie.
Oui, voilà. Voilà. J'allais y venir.
Le bouleversement en question.
Le gros bouleversement en question. Alors moi, j'ai trouvé que l'analyse des sentiments et du ressenti de Pauline sont tout à fait réalistes, sont très justes et parfaitement décrits. Et puis, certaines d'entre nous peuvent s'y reconnaître et s'identifier à Pauline et à ses émotions. Puis alors les personnages sont... Là, je fais un peu une vue d'ensemble. Après, on va rentrer plus en détail dans l'histoire. Les personnages sont attachants aussi parce qu'alors ils sont à la fois drôles et graves, finalement, comme les Lavie, tout simplement.
Oui, c'est... Voilà, il n'y a pas de côté noir ou blanc.
Il y a les deux.
On balance tous les jours un peu entre les deux.
Tout à fait, le yin et le yang, hein, c'est ça. Et puis donc, il y a Pauline, comme on le disait, l'héroïne de ce roman. Il y a sa mère, qui est une psychiatre fantasque. Et puis, moi, j'ai trouvé que les dialogues sont savoureux entre mère et fille. Enfin, c'est autant de sourires, les dialogues, c'est autant de sourires pour le lecteur. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé ces dialogues entre mère et fille.
Oui, j'avoue que je me suis bien amusée aussi
à écrire ces dialogues.
C'est vrai que ça permettait d'alléger un peu le propos de temps à autre et puis de planter les personnages qui... Bon, voilà. Fantasque, c'est pas mal pour décrire la mère, effectivement.
Oui, j'ai trouvé que voilà. Et puis il y a Max, l'homme rencontré sur Mythique, et puis qui va devenir l'ami et le confident de Pauline, et voire même rabatteur et chaperon. Hein. On va le voir dans un épisode mémorable dans un bar de Toulouse.
Oui.
Et puis donc, revenons-en à l'histoire, ou devrais-je dire au conte, parce que ça commence comme un conte de fées. Pauline, il était une fois, Pauline, une jeune femme trentenaire qui vit heureuse et insouciante dans sa maison à Toulouse avec son mari, Yann, son premier amour, elle le connaît depuis l'école maternelle, et puis leurs trois enfants. Donc la situation de Yann lui permet de s'occuper et de choyer ses enfants et son mari sans avoir à travailler à l'extérieur. Donc en fait, voilà, on pourrait dire une vie idéale, d'une femme idéale, équilibrée, enfin tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, tout est bien équilibré, mais un jour, parce qu'il y a toujours un mais, forcément, l'équilibre est rompu, patatras, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Yann, son prince charmant, son beau et tendre mari, lui annonce qu'il va la quitter, enfin qu'il la quitte, après quand même 15 ans de mariage, c'est pas rien, et en plus, pour sa meilleure amie Mélanie, la méchante sorcière du conte, mais à qui il va arriver très vite malheur d'ailleurs.
Comme quoi,
il y a une morale. Et donc avec qui il a une relation depuis des mois. Donc évidemment, c'est un énorme choc émotionnel pour Pauline qui ne s'y attend pas du tout. On ne s'attend jamais d'ailleurs, hein, je pense, à ce genre d'événement, de situation. Donc Pauline se sent doublement trahie, à la fois par Yann et par sa meilleure amie. Et puis elle, donc tout s'effondre autour d'elle, son monde merveilleux s'écroule, le temps s'arrête sur sa douleur et sa rage, et elle dit d'ailleurs « je laisse le temps s'écouler sous moi » et aussi « je croule sous le poids de mon vide intérieur ». C'est vraiment un énorme pavé qui lui est tombé dessus et qui l'a complètement anéanti dans un premier temps.
Oui, voilà, dans un premier temps, en fait, tous ses repères disparaissent puisqu'elle s'était bâti cette vie...
idyllique, idéal.
Idyllique sur la présence inconditionnelle de son mari qui finalement entraînait un petit peu tout le reste. Donc elle n'était pas tout à fait elle à part entière, elle était un élément d'un tout.
Oui, elle n'était pas maîtresse non plus quelque part de sa vie en fait.
Voilà, c'est aussi. Ça en fait, elle se voyait comme un élément d'un ensemble.
D'un ensemble.
Et voilà, l'élément moteur ayant disparu, elle a fait voler en éclats reste. Donc elle se retrouve vide aussi. Puisque
dépourvue.
Elle ne sait plus qui aimer finalement. Oui.
Tout à fait. Donc elle appelle sa mère, justement, cette psychiatre qui est psychiatre renommée mondialement, donc très occupée par son métier, et ce depuis toujours, parce que Pauline définit d'emblée les relations en disant « j'étais la preuve qu'elle avait réussi à se débarrasser de moi ». Oui. Donc de suite, on sent qu'il y a l'abandon aussi qu'elle a vécu, enfin qu'elle a ressenti par rapport au métier de sa mère.
Oui, voilà, c'est un autre... un autre élément qu'on va voir un petit peu explorer dans le livre, puisqu'il y a aussi les relations mère-fille qui entrent un peu en jeu.
Tout à fait. Donc, Pauline se pose aussi beaucoup de questions face à la vie qu'elle menait, ben justement, avant la trahison de Yann, et avec notamment cette question que j'ai bien aimée. Est-ce que ne pas tenir compte de la réalité souvent difficile fait qu'un jour, on le paye au prix fort ? Alors, je trouvais que c'était une vaste question et on espère que la réponse est non.
On espère, oui.
Parce que sinon, ça remet beaucoup de choses en cause. Mais c'est une question qu'elle se pose.
Voilà. Est-ce qu'il faut absolument ouvrir les yeux sur tout et faire attention à tout en attendant le pire ?
Voilà.
Ce qui est un peu triste, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Alors, Pauline va inventer un mot, en fait, un état, en quelque sorte, pour définir ce qu'elle ressent au fond d'elle-même au plus juste, cette dualité de douleur et de haine dans son chaos intérieur, et ça s'appelle la doulaine. C'est l'association de douleur et de haine, et elle va créer ce mot, et elle dit « deux émotions fondues en un seul sentiment ».
Oui, j'ai créé ce mot valise parce que, en décrivant l'état de Pauline, je me suis rendu compte qu'il y avait forcément ces deux sentiments qui étaient là, mais
qui cohabitaient.
Pas forcément des sentiments qui s'exprimaient l'un après l'autre ou qui étaient distincts l'un de l'autre.
Et oui, tout à fait, ils étaient ensemble.
Voilà, il y a cette espèce de fusion qui se crée, donc
tout à fait,
fusionné
tout à
aussi
fait.
Les mots.
Et oui, et ça fait doulaine.
Voilà, un sentiment très spécifique.
Mmh, mmh. Tout à fait, mais je trouvais que c'est très juste, très 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 juste. Alors sa mère aide Pauline, ça c'est un épisode amusant, en transformant la chaufferie de la maison en salle de boxe improvisée, en achetant des oreillers, des traversins qu'elle accroche pour qu'elle puisse, comme des sacs de frappe finalement, pour qu'elle puisse faire sortir cette haine, cette doulaine. D'ailleurs, Pauline dit « c'était aussi stupide et absurde que ma vie », mais enfin quand même, elle s'en sert de cette...
Oui, voilà.
De cette salle de boxe improvisée, elle frappe, voilà. Et alors cette vie toute vide, avec où seuls ses enfants donc la font tenir et rester vivante, et avec cette superbe phrase « trois petits parachutes qui empêchent d'être morte », je trouve que c'est terrible, et c'est terrible et c'est très vrai.
Oui, voilà, elle n'a plus rien à quoi s'accrocher, mais
ce sont ses enfants qui la tiennent et qui la retiennent, voilà. Et donc, Pauline va s'inscrire sur Mythique à un moment donné. Ça aussi, c'est amusant, parce qu'alors, elle fait deux profils qui ne lui ressemblent. Aucun des deux ne lui ressemble.
Oui, elle décide de se réinventer d'une certaine façon, puisque la personne qu'elle était, elle n'arrive plus à la retrouver, elle ne sait pas encore qui elle va devenir. Donc finalement, cette inscription sur Mythique, c'est un peu à sa façon, elle, de se dire « bon ben voilà, je démarre quelque chose d'autre ». Mais du coup, elle va jouer avec le fait que Mythique, ça soit finalement plein de mensonges pour mentir sur sa propre personne.
Puis en même temps, sa mère lui dit « tu n'as qu'à te dire que ton mari est mort pour que tu ailles mieux ». Donc elle se met là aussi à faire en sorte de vivre en veuve, de s'imaginer et de faire et de vivre comme si Yann était vraiment mort. Donc pour ça, elle emploie, parce qu'ils ont, ils font la garde alternée pour les enfants. Donc d'ailleurs, en plus, c'est des passages amusants parce qu'elle donne des lieux des lieux de rendez-vous pour les enfants, des complètement incongrus et insolites pour embêter son ex-mari. Et là, donc, du coup, pour mieux se dire que son mari est mort, elle emploie une personne qu'elle appelle le sas. J'ai trouvé que c'était amusant comme terme aussi,
oui,
parce que cette dame,
une étanchéité,
va permettre qu'elle ne voit plus Yann et que ce soit cette personne qui s'occupe des transferts des enfants de maison à maison.
Oui, voilà, c'est vraiment pour éviter de rencontrer ce mari que, de toute façon, elle a décrété mort.
Oui, enfin bon, ça va être difficile, on va le voir, difficile à vraiment le vivre pleinement, parce qu'on ne peut pas oublier, malgré tout, quelqu'un comme ça, même si on se le dit, quoi. Mais, et donc, pour en revenir à Mythique, elle va faire une presque rencontre, justement, au café... le cardinal Place Wilson, et puis en deuxième rencontre, elle va faire la rencontre de Max, qui lui aussi a extrapolé un peu sur son profil. Lui, c'est au niveau de son âge qu'il a extrapolé.
Voilà.
Voilà. Et c'est un homme, voilà, un physicien, un homme gentil, intelligent, et avec qui elle va s'en sentir suffisamment en confiance pour, eh bien, pour lui confier sa doulaine, enfin lui confier son histoire et donc ce qu'elle ressent, c'est-à-dire cette doulaine qui la ronge finalement.
Oui, elle va le prendre comme confident. Alors, il y a une relation un peu
tout à fait, un ami confident.
Mais au départ, pour elle, c'est un confident.
Voilà, oui. Bah, d'ailleurs, il ne se passera rien entre eux. Hein.
Presque rien.
Presque rien. Et puis, donc voilà, il y a même l'épisode où il devient rabatteur et chaperon pour Pauline dans un bar de Toulouse où il cherche un homme pour elle, pour une aventure d'un soir dont elle a envie pour se sentir, eh bien, femme et toujours vivante.
Oui, oui, voilà, elle va lui confier ce rôle, enfin lui arracher la promesse de jouer ce rôle, parce qu'il n'est pas forcément très d'accord au début, c'est pas un rôle très simple à jouer.
Ah bah non, c'est sûr, puis c'est même dangereux, hein, parce que oui, voilà, ça peut être dangereux. Et puis finalement, c'est une soirée qui se termine voilà, au domicile de Pauline, avec une belle cuite.
Ça se termine par une belle cuite.
Pour tous les deux. Et puis c'est une cuite positive parce que finalement, ça va amener à Pauline à aller travailler au magasin tenu par la fille de Max, justement, qui tient une boutique de vêtements pour hommes dans le centre-ville. Et donc, ça va la remettre un peu dans la vie active, dans la vie sociale, et puis rencontrer des hommes autres dans d'autres endroits que dans des bars, parce que finalement, il s'est avéré que c'est pas là qu'on rencontre
non, ça n'a pas donné
les bonnes personnes. Donc, il y a cet épisode, voilà, enfin, donc elle se remet au travail et c'est important parce
que Max la pousse beaucoup à ça. Voilà, il a compris qu'elle ne s'en sortirait pas en se repliant sur elle-même.
Bah oui, non, que la doulaine ne pourrait pas disparaître. Et elle dit d'ailleurs, voilà, qu'elle commence. Je retrouve pas ma phrase, évidemment. C'est toujours comme. Ah si, ça y est, voilà, je l'ai trouvée. J'avançais désormais dans la vie d'un pas de funambule débutant. Voilà, quand elle commence à travailler, elle commence à se sentir mieux.
Oui, elle avance au moins.
Voilà, elle
si
avance.
C'est pas d'un pas très assuré.
Voilà, mais elle avance. Alors bien sûr, le souvenir de son prince charmant, de Yann, est parfois et même souvent pesant et douloureux, puisqu'elle dit à un moment, j'en ai ma claque que Yann, malgré tous mes efforts et arrangements, sème des indices de sa vie dans la mienne.
Oui.
Et aussi, mais je fais des efforts, je vous jure, la preuve, je suis encore vivante. Quand elle dit ça à sa mère et à Max, pour les rassurer, parce qu'eux s'inquiètent quand même, hein, pour elle, bien sûr. Et puis le parfum de Yann sur les enfants, quand il rentre, bien de la semaine passée chez lui, et les souvenirs olfactifs sont les plus cruels, et c'est tellement vrai.
Oui, on pense à la Madeleine de Proust qui est plus sur le goût, mais les odeurs.
Les odeurs, on ne peut pas oublier comme ça. On a beau s'imaginer qu'on est veuve, que le mari est mort. Voilà, il y a le parfum qu'on connaît bien, les odeurs qu'on connaît bien.
Il faudrait les obliger à changer de parfum.
Voilà, et bon, on ne peut quand même pas. Et puis il y a même un jour où Yann, enfin, le mort-vivant, pénètre dans la boutique où elle travaille pour acheter une veste, et là elle se rend compte qu'elle n'est pas, parce qu'elle le dit, hein, je m'étais cru guérie, et ce n'était qu'une rémission. Parce que quand elle le voit, bah, c'est pas elle qui s'en occupe, hein, c'est sa patronne qui s'occupe de lui vendre cette veste. Alors elle est cachée
dans l'arrière-boutique.
Voilà, elle les épie, et bon, elle ressent forcément.
Oui,
quelque chose.
Il y a des tas de choses qui passent à ce moment-là. Et donc, voilà, entre la douleur, la haine, mais aussi quelque chose qui ressemble à des regrets, à de la nostalgie. Donc, c'est encore plus difficile.
Oui, voilà, parce qu'il porte bien la veste, parce qu'il est toujours beau. Hein, ouais. Voilà.
Et puis normalement, il est mort. Donc, c'est encore plus difficile.
Oui, voilà. En plus, normalement, il est mort. Et là, il est bien vivant devant elle à essayer une veste. Et alors, donc, ensuite, eh bien, il y a le passage, la fin du livre dont on ne parlera pas pour laisser la surprise à nos auditeurs et lecteurs. C'est, eh bien, Yann, à un moment, il disparaît. Mystérieusement, plus personne n'a de nouvelles de lui, ni Pauline, ni le SAS, hein, la personne qui récupère les enfants, ni à son travail. Voilà, il disparaît mystérieusement, sans laisser de traces. Et donc, finalement, cette disparition, paradoxalement, va aider Pauline pour faire disparaître sa doulaine, finalement. Parce qu'elle s'inquiète, elle va s'inquiéter de cette disparition. Et c'est humain.
Oui, voilà, c'est...
c'est humain.
Alors qu'elle devrait se réjouir, en fait, elle est tiraillée un peu entre, à un moment donné, la réjouissance de cette disparition, enfin débarrassée, et puis quelque chose qui ressemble à l'inquiétude, oui.
Oui, parce que comme dit la mère de Pauline, à Pauline d'ailleurs, à sa fille, elle dit « l'amour est aussi humain que les erreurs ». Et voilà,
oui.
c'est tout à fait vrai là aussi.
Oui, on peut se tromper dans tous les domaines.
Dans tous les domaines. Et donc on ne raconte pas la fin parce qu'il faut que les auditeurs et les lecteurs découvrent cette fin et de ce roman, de ce conte moderne, on pourrait dire.
Oui, j'avais jamais songé sous l'angle du conte, mais pourquoi pas.
Enfin, y a avec des passages, la méchante sorcière, le prince charmant, voilà, le chevalier, hein, Max,
oui,
en chevalier.
Chevalier.
Alors la mère, je ne sais pas, ça pourrait être... non, c'est pas une sorcière, parce qu'elle est gentille.
Une fée marraine.
Oui, voilà, une fée marraine, voilà, qui protège d'une certaine manière sa fille. Mais bon, c'est vrai qu'elles ont des rapports un peu compliqués, aussi. Hein.
Pas très conventionnels.
Voilà, pas très conventionnels. Alors, c'est un roman, voilà, puisé vraiment dans la réalité, directement, voilà, dans la réalité de nos vies. Elle a, comme je l'ai dit, elle a très belle écriture, avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'humour. Hein, on sourit très souvent, hein, dans ce livre. Et heureusement, comme ça, ça rend plus léger la gravité, on va dire, de l'histoire.
Le sujet,
voilà.
Pourrait être assez plombant, donc effectivement, j'ai choisi de le traiter
avec humour. Donc les personnages à la fois graves et drôles, et puis donc beaucoup de justesse, d'analyse dans le ressenti féminin. Je trouve que vraiment c'est très vrai. Tout est parfaitement analysé, maîtrisé, décrit. Ça m'a beaucoup plu de lire un livre comme ça qui ne s'adresse pas qu'aux femmes, hein, je le précise, hein, mais qui parle de femmes et qui est certainement intéressant à lire pour les hommes. Mais pour les femmes, on peut se retrouver, s'identifier. Ça fait plaisir de lire un livre comme ça. Donc merci Emmanuel de l'avoir écrit. Et alors je rappelle le titre, donc c'est L'art difficile de rester assise sur une balançoire aux éditions de Noël. Donc un beau cadeau à mettre dans un escarpin au pied du sapin, mais pas seulement un escarpin, hein, un mocassin ça aussi. Hein,
mocassin passe aussi.
Voilà, le mocassin passe aussi. Et alors donc c'est important d'écrire ce livre, ce roman, Emmanuel ?
Oui, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de parler de ça, parce qu'on voit beaucoup autour de nous de gens qui subissent cette situation, alors peut-être pas dans les proportions de Pauline qui avait cette vie idéale, mais en tout cas de gens qui perdent leur repère à cause d'une séparation. Et souvent, on a tendance à occulter les difficultés qu'ils peuvent vivre après, les difficultés émotionnelles, voire la détresse profonde.
À
se dire, bon, voilà, il n'y a pas mort d'homme tant qu'on a la santé, etc.
Ce
sont des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre.
On
le perçoit par moment, mais là, j'ai voulu aller jusqu'au
fond
de l'exploration.
Oui, tout à fait.
Me mettre à la place de cette femme.
De Pauline.
Voilà.
Qui pourrait être n'importe qui, n'importe quelle autre femme. Et c'est ça qui est bien, justement, c'est que ça... Ça nous permet, voilà, ça aide. On se sent comprise. Enfin, on sent que voilà que quelqu'un a compris le. Ben oui, non, c'est ça. Hein, c'est important. Alors, d'autres projets, j'imagine.
Plein d'autres
d'écriture.
Projets.
Oui, plein, plein.
Alors un recueil donc un nouveau recueil de nouvelles qui va sortir en janvier chez Quadrature et qui va s'appeler Le bruit de la gifle. Une novella d'anticipation sociale que j'ai écrite avec Manu Cause de nouveau, qui va s'appeler Du temps de cerveau disponible. Ça sera chez Inuit.
Au mois d'avril.
Premier trimestre, oui, mois d'avril, je crois. Et puis mon roman qui va sortir en poche bientôt.
Donc celui-ci.
Voilà.
Mais qui n'aura pas le même titre.
Qui s'appellera a priori L'art délicat de rester assis sur une balançoire. Donc après, ce sont des choix éditoriaux.
Bon, il y aura toujours balançoire dedans.
Et qui sortira aussi en espagnol et en catalan en mars, je crois.
D'accord. Ah, bah donc,
oui. Je n'ai pas les titres encore, mais...
Oui, oui, oui. Bon, bah, ce sont des bonnes nouvelles.
Ben oui, plutôt.
Ben oui, tout à fait. Donc, ce sera l'occasion de nous revoir pour le recueil de nouvelles en janvier.
J'espère.
Et puis la nouvelle avec Manu. À ce moment-là, vous viendrez tous les deux nous en parler. Page à Page. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel,
merci,
pour ta présence toujours lumineuse à Page à Page, et puis ton
merci
roman.
Merci pour ton accueil et ta lecture.
Et ton roman, L'art difficile de rester assise sur une balançoire, aux éditions de Noël. Alors on se quitte avec une chanson qui est présente dans le roman, c'est Help des Beatles. Petit clin d'œil. Et puis on se retrouve vendredi prochain sur Radio Occitanie pour la dernière de l'année 2013. Et je recevrai Rachel Corren-Blit et ses deux petits romans sous forme de cahier d'écolier, Math à la petite semaine et Philo à la petite semaine, aux éditions du Rouergue. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down.